Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés et des résultats d'ABC Arbitrage qui ont été publiés cette semaine, en cette fin mars. C'est son président qui est avec nous, Dominique Séolin, en plateau. Bonsoir Dominique.
Bonsoir Grégoire.
Merci beaucoup d'être là. Toujours intéressant de regarder les résultats de votre société. Je le rappelle, vous êtes spécialiste des stratégies quantitatives d'arbitrage sur l'ensemble des classes d'actifs que le marché peut proposer. Et donc, vos résultats sont intéressants parce qu'ils reflètent aussi l'activité des marchés au sens large, Dominique. Pour se focaliser sur les résultats annuels que vous avez publiés cette semaine, là, en cette fin mars, pour l'exercice 2023, je comprends que la dynamique d'activité, la dynamique de résultats d'ABC Arbitrage s'est normalisée en 2023 pour revenir sur les niveaux de 2019, qui reste pour beaucoup l'année de référence avant Covid, c'est ça, Dominique ?
Je ne parlerai pas de normalisation, je parlerai plutôt de points bas par rapport à des paramètres qui sont au point bas. Parce que si on regarde un petit peu les paramètres de marché 2023, hein, vous savez que nous, on est sensible à trois paramètres, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, d'ailleurs. La volatilité, les opérations sur le capital des émetteurs, donc type M&A, hein, fusion-acquisition, ou même des augmentations de capital. Ouais. Et troisième paramètre, les volumes traités par les marchés. Sur ces trois paramètres-là, ces trois paramètres sont en dessous de leur moyenne historique depuis 10 ans. C'est-à-dire la moyenne historique depuis 10 ans, ces trois paramètres sont sensiblement en dessous de cette moyenne. Et donc c'est clair que dans ces situations-là, je dirais qu'on a un peu de vent contraire, c'est clair que pour nous c'est moins facile de faire des résultats et on revient finalement à des exercices comparables en termes de paramètres, ouais, et donc en termes de résultats.
Mais c'est pas une année normale, ça doit non, pas alors, être une référence normale
non,
pour vous. C'est
ce on n'aimerait pas, pour être honnête, exactement, mais il y a des questions intéressantes autour de justement cette normalité ou cette nouvelle normalité, mais nous produisons un return on equity, un rentabilité sur fonds propres de près de 11%. Donc on est au-dessus de notre de point bas des 10%, donc ça c'est bien. Ouais. Mais notre moyenne historique, nous, elle est au-dessus de 15%. Donc ouais, en ça, on n'est évidemment pas content, on a envie de faire mieux en tout cas. Ouais. Mais par contre, on a tenu le contrat moral des 10% et ça c'est déjà très bien dans la situation des marchés qu'on a rencontrés.
Ouais. Qu'est-ce que vous comprenez du régime de marché ? Alors, celui dans lequel on a évolué en 2023, puis celui dans lequel on évolue aujourd'hui et dans lequel on va évoluer dans les prochains mois, c'est-à-dire que le marché factorise l'idée qu'il n'y a plus de hausse de taux de la barre des banques centrales, qu'il y aura sans doute quelques baisses de taux. Sur ces trois grands paramètres qui sont votre matière première pour l'activité d'ABC Arbitrage, volatilité, M&A, volume, qu'est-ce que vous dites du régime de marché actuel ?
Oui, je pense que déjà, factuellement, ce qu'on peut voir, c'est que les indices battent des records. Hein. Enfin, ouais. C'est pas une surprise, au non. sens c'est déjà connu. Hein. Donc ouais. les indices battent des records. On est sur des plus 15% en 6 mois, enfin des choses un peu impressionnantes. On est sur des volatilités encore sensiblement en dessous de leur moyenne historique.
Sur les marchés actions.
Sur les marchés actions, là je parle exactement, excusez-moi, vous avez raison, la précision est importante. Et on a une activité sur les fusions-acquisitions qui commence à redémarrer au mois de mars, mais c'est peut-être un petit peu tôt pour parler d'un redémarrage, mais enfin il y a quand même des signaux positifs hein, qui viennent un peu compenser ce qu'on appelle l'expectation gap, c'est-à-dire en fait l'année dernière les prix étaient très élevés, les taux très élevés, donc il faut que les investisseurs, les acheteurs et les vendeurs se réajustent. Donc pour l'instant en tout cas, il est clair que les marchés sont optimistes, il est clair qu'ils pensent que les banques centrales vont baisser les taux, mais plus que ça, je pense qu'ils ont la sensation que le risque n'existe plus ou que la prime de risque n'existe plus. Et à juste titre, hein, si on considère que le passé récent est le meilleur prédicteur du futur proche. En février 2023, la Banque centrale américaine est intervenue immédiatement et pour des montants importants et en garantissant les gens qui avaient le dépôt des personnes.
SVB,
avaient, voilà, SVB, merci.
On en parlait dans l'émission, on faisait le bilan du trimestre avec les invités précédents. Mais oui, on a tous oublié SVB. Non, les intervenants de marché n'ont pas oublié ce qui s'est passé et la manière dont la
Exactement.
Fed a pu réagir à ce moment-là.
Et donc, je vous rappelle en particulier, ils ont garanti les dépôts, mais surtout, ils ont autorisé les retrait sans pénalité. Ouais. Et donc, ça, ce n'est pas un jeu capitaliste. Hein. Certains parlent d'économie administrée. Ah, oui. Le terme est sûrement un petit peu fort, mais en tout cas, ils sont là. Ouais. Et la taille des banques centrales est encore très significative. Ça veut dire qu'elles ont finalement autorisé des hausses de prix parce que finalement, elles-mêmes ont servi d'apport de liquidité à de carburant à cette hausse de prix, en fait.
Donc, le put des banques centrales, la croyance, ou même plus que la croyance dans le put des banques centrales, est toujours solidement ancrée aujourd'hui dans les marchés.
De la part des investisseurs, oui. Je le dis, je l'ai dit l'an dernier et je le répète, on a quand même un grand nombre d'éléments géopolitiques et économiques qui devraient amener de la volatilité. Sauf si les banques centrales, à chaque fois qu'il y a un jeu capitaliste qui se met en place, hein, que moi je trouve sain pour différentes raisons, y compris des raisons sociales, si un jour vous avez envie, on pourra en parler, mais en fait, tue ce jeu capitaliste. Exactement, votre expression est tout à fait correcte. Moment-là, évidemment, ces problèmes économiques que nous pouvons avoir, en particulier ce que j'appelle un peu de manière caricaturale le mur de la dette qui est devant nous, hein, si on regarde les graphiques des dettes à rembourser et donc les probables refinancements à avoir, sachant que les taux vont peut-être baisser mais jamais revenir au taux précédent, hein, il est clair que ces dettes vont poser un problème. Donc soit ça va créer des refinancements en equity, donc en actions, et donc ça c'est plutôt bon pour nous et on va y trouver aussi notre part à jouer, soit il y aura des problèmes de refinancement et donc des revalorisations ou des corrections de valorisation qui vont se mettre en place fin 2024 et début 2025.
Mais allons-y quand même, parce que la question qu'on se posait, c'est est-ce que la Fed joue avec le feu avec une croissance nominale qui est révisée à la hausse, qui va être plus forte pour encore plus longtemps, la Fed nous dit qu'il y aura quand même quelques baisses de taux assurantielles. Les marchés applaudissent des deux mains, des deux pieds, avec tout ce qu'ils peuvent. Mais quand on essaye de réfléchir un peu au-delà, vers quoi ou vers quel type de risque ça nous emmène, Dominique?
C'est vrai que c'est une...
S'il faut réfléchir au risque.
C'est le métier, bien sûr. C'est gentil de m'amener sur ce terrain-là. Évidemment, si vous voulez, aucun d'entre nous, en tant que citoyen, n'ait envie d'une crise financière ou économique, c'est une évidence. Donc évidemment, tant qu'il y a de la musique et qu'on peut danser, dansons. Mais quand même, ça pose des questions, vous avez tout à fait raison, sur la crédibilité à terme, sur les monnaies souveraines et sur la capacité, finalement, à continuer à avoir cette crédibilité sur l'ensemble des citoyens du monde occidental, j'allais dire des démocraties, en tout cas. On sait que les déficits américains sont très significativement constants.
Donc on est au-dessus de 6% pour 10 ans, hein,
exactement,
maintenant.
Hein.
C'est
voilà,
ce que dit CBO américain.
On voit bien qu'en Europe, certains pays ont des difficultés, pour ne pas nommer la France, et c'est logique, hein, vu les dépenses qu'on met en place. Et donc, ça pose des questions sur notre capacité à financer ça à long terme. Bon, moi je pense qu'en tout cas, c'est un acteur central, ce sont des acteurs centraux, les banques centrales, hein, c'est le cas de le dire, mais clairement, il y a quand même des risques géopolitiques, on devrait retrouver un peu de volatilité, et s'il n'y a pas de volatilité et que tout le monde est heureux, on devrait retrouver des opérations sur le capital et des fusions acquisitions.
Sur le M&A,
exactement, ça, exactement.
Oh, ça a l'air prometteur, j'ai l'impression qu'on voit passer beaucoup de papiers, de deals,
ouais,
etc. C'est l'activité M&A est en train de remonter.
Avec des grosses market cap qui sont concernées par du M&A, listées et non listées, hein, les deux, et puis un rebond en nombre, en tout cas, qui existe et qui est intéressant.
Comment vous regardez les développements du moment de ce que j'appelle l'ingénierie financière? C'est aussi bien l'avènement des zero day options, donc ça a été à Wall Street et ça arrive désormais sur les marchés d'Euronext, les ETF Bitcoin également, qui ont été des marqueurs, j'allais dire, des derniers mois. Comment vous regardez cette ingénierie financière? Toujours infinie, bien sûr, hein.
Ben voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc pour la petite anecdote, je la raconte régulièrement. Donc il y a 25 ans, on m'avait dit que notre métier était fini parce que bon, les produits ceci, les produits cela. Donc la compétition augmente, mais le nombre de produits à traiter aussi. Ah. Et ça, c'est très excitant d'un point de vue intellectuel, j'allais dire, ou un point de vue business. Et on se dit qu'il y a des choses sympas à faire. Maintenant, on peut se poser quand même des questions d'un point de vue économique ou d'un point de vue citoyen. Là encore, si je me remets un peu, je me décale de mon intérêt premier et puis je regarde un peu ça en tant que citoyen. C'est vrai que ce sont des produits qui posent question. Ce sont des produits dont la plupart sont ultra spéculatifs. Le zero day option, là, qui a un énorme succès à Wall Street.
Donc c'est des options qui ont expiration sur
dans la journée, donc ça s'appelle 0DTE, c'est 0D to expiration. 0D to expiration, donc avec mon accent. Et donc en fait, l'option existe le matin et elle finit le soir. Et donc effectivement, ça peut être très intéressant pour couvrir des news dans la journée.
La publication d'une stat, par exemple.
Par exemple, ça peut être intéressant. Il se trouve que 40% quand même de ces options-là sont traitées par des particuliers et qu'on.
On peut imaginer qu'ils n'ont pas besoin de se couvrir sur la
On peut imaginer que pour certains d'entre eux, en tout cas, il y a un aspect un peu casino, un peu jeu qui peut se mettre en place. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des études par des banques américaines qui ont démontré qu'en cas de forte volatilité, ces options pourraient, à plus de 1 000 milliards en cours, hein, pourraient générer un excès de volatilité supplémentaire, enfin en tout cas un surplus de volatilité significatif sur le S&P si on devait avoir retrouvé des situations type 2020 ou type 2016, enfin des choses comme ça.
Non mais typiquement, ça veut dire que c'est des développements qui sont importants, structurants peut-être pour l'activité, enfin structurants, oui, j'en sais, mais qui sont des facteurs nouveaux, importants à prendre
en compte.
On observe,
nous ne sommes pas là-dessus directement pour l'instant, peut-être qu'un jour, mais en tout cas c'est
intéressant. Si ça accroît structurellement dans la volatilité effectivement du marché, c'est aussi un paramètre
c'est,
pour
c'est prévu, c'est prévu. C'est l'étude dit pas des niveaux de volatilité comme aujourd'hui, mais sur des niveaux de volatilité supérieurs à 20, par exemple, ça pourrait générer des choses. Mais encore une fois, cette dimension casino me paraît très intéressante, dimension casino qu'on retrouve aussi sur les plateformes crypto, hein, avec des produits à gros effet de levier sur des paris que vous pouvez prendre sur un range du Bitcoin pendant 2 jours. Le Bitcoin va rester entre tel point bas et tel point haut pendant 2 jours. Tac, vous touchez 1000 fois votre mise ou 100 fois votre mise. Donc cet aspect un peu du développement du pari en général, hein, que ce soit les chevaux, le tennis, le tiercé, je ne sais pas trop quoi, d'autres paris, finalement, on a l'impression qu'il y a une porosité, il y a une contagion sur les produits financiers qui aujourd'hui sont développés pour faire du business, hein, si on ne se cache pas la vérité.
Assez trivialement, c'est une des caractéristiques de la nouvelle génération, d'une génération Z, ce côté on aime l'émotion, l'excitation, le côté pari.
Alors, on ne va pas tout leur mettre sur le dos, mais c'est vrai qu'on peut dire que la génération actuelle d'investisseurs, peut-être, il y a quel que soit leur âge, alors peut-être pas les très anciens qui sont plus dans les fondamentaux, aiment bien ce côté un peu pari et ce côté réactivité, en tout cas, de dire bon, voilà, si c'est pour gagner 3 euros en 3 mois, ça ne m'intéresse pas, donc je vais vraiment vouloir jouer.
C'est une porte d'entrée. J'ai l'impression que pour une nouvelle génération, c'est peut-être la porte d'entrée. Il faut accepter que ce soit la porte d'entrée vers les marchés financiers.
Oui, complètement.
Et j'ai l'idée que derrière, on peut aussi transformer son attitude d'investisseur et la faire évoluer.
Je pense pas.
Moi, j'ai pas de jugement par rapport à ça.
J'ai pas de jugement moral.
Certainement pas.
Je constate factuellement quelque chose qui se passe et j'ai pas de jugement moral du tout par rapport à ces investisseurs.
Est-ce que vous êtes toujours satisfait d'être le patron d'une société cotée en bourse, Dominique? Ça fait quoi, 20 ans qu'ABC Arbitrage est cotée?
Ça fait un peu plus de 20 ans.
Un peu plus de 20 ans.
Ouais, tout à fait.
Je voyais que le 1er mars, vous avez communiqué parce que vous avez reçu beaucoup de questions de vos actionnaires sur la baisse du cours de bourse qui était tombé, je crois, au plus bas depuis de nombreuses années.
En tout cas, pas agréable.
Non, mais bon, qu'est-ce que vous leur avez répondu? Et encore une fois, ma question, j'y reviens. Est-ce que vous êtes toujours satisfait d'être une société cotée aujourd'hui sur des marchés d'entreprises de petite et moyenne capitalisation boursière?
C'est une bonne question. Alors, je pense que d'abord, on peut répondre pour ABC Arbitrage, puis on peut élargir le scope
bien
avec
sûr,
ce que vous
avez été président de Middle Next, hein, l'association du secteur qui représente les intérêts.
Petites et moyennes valeurs cotées sur la place de Paris, donc c'est un sujet qu'on travaille et qu'on essaye de bien connaître, en tout cas, même si c'est toujours complexe. Sur ABC Arbitrage, ce n'est pas un moment agréable et franchement, je suis désolé pour nos actionnaires qu'ils aient vécu une situation comme celle-ci. C'est une situation qui vient, et on l'a compris un peu ex post, mais parce que c'est un mécanisme un peu compliqué, qui vient de la sortie de l'indice MSCI des Mid Small d'ABC Arbitrage, qui avait déjà subi une...
Qui a généré un flux vendeur, derrière.
Qui a généré un flux vendeur par les ETF de réplication de ces indices.
Sûr. Ah, mais bien sûr.
Et ces ETF détiennent finalement des quantités trop importantes au regard de la liquidité des mid-small en ce moment. Et donc, c'est un sujet intéressant.
D'accord.
Je pense qu'on va...
Il y a des effets multiplicateurs en plus.
Tout à fait. Alors, en l'occurrence, là, les ETF de réplication du MSCI mid-small détenaient un peu plus d'un million de titres ABC Arbitrage, alors que la liquidité des titres ABC Arbitrage se situe plutôt autour de 50 000 titres par jour, peu plus.
Bien sûr.
Donc, évidemment, on voyait le gap à combler
quand
en 30 jours.
Ça, c'est des effets
donc,
de prix importants.
Voilà, exactement. Donc, évidemment, si on avait produit un résultat 10 fois supérieur à celui qu'on vient de produire, je pense qu'on aurait eu un effet de compensation positif. Ce n'était pas le cas. Et donc, l'objectif de la communication du 1er mars, ce n'était pas de juger ce que faisait l'ETF, ce n'était pas de dire si le cours de bourse était au bon prix, mais de rappeler factuellement notre activité, les éléments de cette activité et les éléments de risque de notre métier, que les actionnaires puissent juger en âme et conscience de leur envie de rentrer ou de sortir en fonction du prix qui peut être aussi une bonne opportunité, hein, puisque on distribue un dividende significatif, ce qui fait qu'au cours actuel, on doit être sur un rendement de près de 8%. Donc, ça peut être aussi une bonne opportunité.
Est-ce que vous êtes toujours satisfait d'être...
Alors voilà, on vient au sujet suivant. Moi, j'allais dire oui, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à un épiphénomène qui est un phénomène dans lequel on a pris un peu d'énergie, je suis honnête, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, quand même, on a plus de 20 ans de cotation avec des belles histoires et des actionnaires fidèles qui sont là depuis plus de 20 ans et qui ont des prix de revient négatifs. Donc, c'est quand même pas non plus rien. Hein, c'est plutôt bien. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut, si on élargit un peu le scope, on peut quand même regarder l'environnement mid-small côté, qui est un environnement problématique aujourd'hui. L'écosystème, si on ne se cache pas les yeux, est en souffrance. Il y a de très belles histoires dans les boîtes cotées. Hein. J'ai la chance de côtoyer le patron d'Interparfums, le patron de Wavestone, de Thermador. Il y a de très très belles histoires et j'espère qu'ABC Arbitrage sera classé dans ces très belles histoires. Mais quelque part, il y a un problème. Ce problème, il vient de quoi? Un manque d'introduction en bourse sympathique, des sorties importante en nombre.
Une attrition de la cote.
Et donc une attrition de la cote et une attrition de la liquidité, de moins en moins de ce qu'on appelle du buy side, hein, donc des gens qui achètent des mid small. Et donc il est plus que temps de se réunir autour d'une table et de trouver des solutions pour rendre ce marché plus attractif. En gros, hein, le CAC, depuis le début d'année, je crois, a fait plus 15, et les mid-small ont fait plus 4.
Oui,
ouais, bon, plus 4. En tout cas, beaucoup moins, en tout cas. Hein, donc, c'est sûr que c'est un sujet très intéressant.
On entend parler de plus en plus, à nouveau, marché de capitaux, relancer la structure des marchés cotés en Europe et en France. Merci beaucoup, Dominique. Dominique Séolin, qui était avec nous, président d'ABC Arbitrage, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.